Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Quel sort la fin de la guerre d'Algérie a-t-elle réservé aux harkis, ces supplétifs algériens combattant dans les rangs de l'armée française ? L'historien et écrivain Jean-Pierre Gueldreau a été en contact étroit avec des soldats harkis. Débarquant en Algérie en 1960 comme jeune officier, il commande justement une harka, formation très mobile, employée localement pour défendre les villages, puis progressivement devenue des commandos offensifs. Depuis 60 ans, il se rend dans les lycées et collèges de France, dans les universités populaires, et sur les plateaux de radio et télévision pour témoigner de ses liens avec ses soldats ainsi que du sort qui leur a été réservé à la fin des hostilités. Un entretien qui constitue le cinquième volet de notre série d'été consacrée à l'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de son indépendance. Bonjour Jean-Pierre Gueldreau.
Bonjour Éric Bataillon.
Historien et écrivain, vous avez vous-même été en contact étroit avec des harkis, puisqu'en 1960, vous étiez officier du contingent français et également d'ailleurs chef de harka en Petite Kabylie. Jean-Pierre Gueldreau, quel souvenir gardez-vous de l'Algérie où vous débarquez alors que vous avez 23 ans ?
Je garde, je pense, à l'identique pour tous les garçons d'une vingtaine d'années qui débarquaient en Algérie. Une image, disons, très idyllique, la beauté des paysages, l'originalité de la construction des maisons. On découvre sans le savoir l'Orient. Et après cette beauté, on va découvrir que l'insécurité est partout. Et à l'école de Cherchel, c'est là que je verrai le premier mort de ma vie.
Je le disais, vous étiez chef de harka en Petite Kabylie. Comment était constituée une harka ?
Alors, une harka, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui signifie mouvement et qui a une notion chevaleresque. Donc, la constitution d'une harka, c'était donc des supplétifs. Et le terme de supplétif est un mot qui convient, à mon avis, beaucoup mieux, parce qu'il y a toujours eu, en Afrique du Nord, un recrutement de supplétifs dans l'armée française. Donc le terme de harki apparaîtra beaucoup plus tard. C'était alors un groupe d'hommes qui pouvait aller de 10 à 150 hommes au niveau d'une compagnie, mais l'effectif était très variable.
On estime qu'un peu plus de 200 000 Algériens ont combattu aux côtés de l'armée française en Algérie à cette époque. Qu'est-ce qui motivait ces Algériens pour rejoindre le contingent français ?
Alors c'est effectivement une question intéressante parce que dès qu'on est parti sur les chiffres, c'est extrêmement complexe et aléatoire. Je dirais qu'il y avait en somme trois aspects très particuliers. Pour certains d'entre eux, c'était le cas chez moi, les plus vieux, alors la notion de vieillesse est aussi tout à fait relative, hein, ceux qui avaient 30, 35, 40 ans, je ne sais pas trop. Il y avait cette notion de fidélité à la France, il y avait ou la participation ou le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait l'attachement à la France ou l'attachement à l'officier qui représentait la France. Le deuxième aspect, c'était l'aspect financier. Et là, c'est intéressant parce qu'en 1960, moi, en tant que sous-lieutenant du contingent, je gagnais à peu près 75 000 anciens francs et un harki gagnait à peu près 24 000 anciens francs, c'est-à-dire le tiers. Ce qui est une somme tout de même importante qui leur permettait, avec les figues, les olives, les oranges, ça leur permettait de vivre. Mais on ne peut pas parler de mercenaires pour une somme aussi dérisoire. Enfin, la troisième raison, c'était à la fois ce désir de se protéger ou tout simplement le désir de se venger. Et là, pour terminer, je vous dirais que la population recrutée par l'armée française ou par le FLN, c'était la même. C'était cette population analphabète qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale, dans le bled qui connaissait la misère. Mais d'entrée, le FLN a inventé une conception où tu es des nôtres et tu es un patriote, où tu n'es pas des nôtres. Donc sans être forcément de l'autre côté, tu n'es pas des nôtres, tu es un traître et tu subis le châtiment du traître, c'est-à-dire l'égorgement. Par conséquent, avec quelques exemples de ce style, certains n'avaient pas d'autre solution que de chercher protection dans l'armée et avoir une arme pour pouvoir également se protéger.
sachant qu'un certain nombre de FLN, de combattants FLN, à un moment ou à un autre, sont devenus à leur tour, d'ailleurs, des supplétifs de l'armée française et donc des harkis.
Ça marchait dans les deux sens. Vous avez notamment, à partir de 1959-60, et le plan Châle, où il y a eu un recrutement d'environ 60 000 harkis qui ont largement contribué à ce qu'on appelait le rouleau compresseur de l'armée française, qui va, disons, écraser les principaux bastions de la rébellion. Alors, à ce moment-là, vous avez certains rebelles, appelons-les comme ça, qui connaissaient une misère absolument totale et qui ont préféré, qui ont fait le choix, parfois, de rallier l'armée française. Alors, ça marchait dans les deux sens. Il y a ces déserteurs, mais de l'autre côté également, certains harkis, voyant une fin proche, pouvaient passer de l'autre côté. Alors, dans certaines familles, et là, on n'y comprenait rien, nous, il y en avait un dans un camp et l'autre de l'autre. J'avais ainsi, moi, quelques harkis qui me disaient avoir le cousin, le frère, etc., de l'autre côté. Et à ma question, qu'est-ce que tu vas faire si on se trouve, ah, mon lieutenant, Carpi, je te jure, je le tue, etc. Le problème, c'est jamais... Et alors vous avez aussi un troisième recrutement, c'est le retournement du rebelle. Vous attrapez un gars dans le maquis et vous lui proposez soit de devenir harki ou bien vous lui proposez un autre sort. Et là, le choix est relativement limité. Mais enfin, ce retournement des rebelles s'est beaucoup fait en 57 au moment de la bataille d'Alger.
Y a-t-il aussi des harkas de femmes ? Je crois notamment qu'il y en avait une à Katina, c'est cela ?
À Katina, voilà. Vous aviez une harka de femmes, et effectivement, c'est quelque chose de très particulier, qui était à l'initiative d'un officier qui, constatant qu'à Katina, il n'y avait pratiquement pas d'hommes, les hommes étaient soit au maquis, soit dans l'harka, soit en France pour travailler. Donc, il a eu l'idée, avec un sous-officier de carrière, de former d'abord un travail militaire les femmes qui vont devenir autonomes, c'est une très belle expérience, autonomes avec un salaire et qui vont apprendre des métiers artisanaux, elles vont devenir électriciennes, plombières, et tout ceci avec l'aide financière du plan de Constantine accordé par De Gaulle. Donc cette histoire de harka est très originale, elles vont par la suite, oui, monter la garde, sous les colibés bien sûr des hommes, mais c'est une expérience très originale, le général De Gaulle vitera cette harka, et ça se terminera évidemment de façon tout à fait négative et terrible en 62, où pratiquement elles seront toutes égorgées.
Oui. Est-ce que c'est le cas aussi des harkettes, celles qui s'occupaient des femmes musulmanes dans les camps de regroupement ?
Écoutez, c'est à peu près le même statut. On dit harkette, oui, c'est à peu près pareil. Alors oui, vous aviez ces femmes qui s'occupaient au niveau des soins. Au niveau des soins, vous aviez en général une infirmière européenne et puis une aide musulmane. Et ces femmes s'occupaient de soigner un petit peu la misère. Elles étaient hébergées dans des postes militaires, elles soignaient la misère. Et de l'autre côté, vous aviez aussi dans le maquis des femmes infirmières qui accomplissaient dans des conditions matérielles beaucoup plus difficiles qui accomplissaient la même tâche.
Orient Hebdo sur RFI.
En 1962, Jean-Pierre Gueldreau, que se passe-t-il pour vous lorsque les accords d'Évian sont signés ?
Alors, lorsque les accords d'Évian sont signés, évidemment, c'est une satisfaction pour nous théorique, parce qu'on se dit, nous, appelés du contingent, quoi qu'il en soit, la fin n'est plus très loin. Sauf que on va bifurquer vers une autre guerre d'Algérie qui n'a absolument rien à voir, eh bien, avec l'OAS. Bon, l'OAS qui a été créée en février 61 et qui fait qu'à partir de cette date, elle veut absolument tout faire pour que les accords d'Évian n'existent pas. Ce qui fait que pour nous, militaires, nous avons, après les accords d'Évian, interdiction de tirer, sauf si on nous tire dessus, et ça c'était, on va dire, les provocations permanentes de l'OS. Donc moi, très vite, j'ai abandonné mes harkis, Et je suis parti à Alger avec une section d'Européens, de jeunes Alsaciens, pour faire du maintien de l'ordre. Donc c'est une autre guerre d'Algérie avec l'ORS qui va se dérouler. Et moi, je vais rentrer le 26 juin 1962 en métropole.
Trois mois s'écoulent donc après les accords d'Évian en mars, avant que l'on commence à transférer des harkis d'Algérie en France. Qui est concerné? Combien environ de harkis sont ramenés en France à ce moment-là?
Bon, alors là, alors on est parti aussi dans des chiffres extrêmement difficiles, mais en général, les historiens de Guy Pervillier, Benjamin Stora, on pense que c'est entre 50 000 et 70 000, bon, à quelque chose près. Hein, voilà. Simplement, il y aura, disons, quelques vagues supplémentaires hein, jusqu'en 1963, et entre 1962-63... Bon, c'est très difficile, je vous dis. Concernant les chiffres, c'est exactement comme pour les harkis qui ont été massacrés. On va de 60 000 à 150 000, ce qui est parfaitement exagéré. Et c'est Guy Pervillier qui a étudié cela de façon cartésienne, donc concernant les morts d'un côté comme de l'autre. Enfin, c'est extrêmement difficile, si vous voulez, d'évaluer cela.
Ce qui veut dire qu'il y a plus de harkis que l'on a laissés sur le sol algérien que ceux que l'on a accueillis en France.
Oui, alors, si vous voulez, l'accueil en France, c'est mon point de vue. L'accueil en France avait été interdit par les lois sur lesquelles je ne m'étends pas. Tout simplement parce que c'était l'idée profonde de De Gaulle, l'OAS récupérait ses harkis en leur tenant le discours suivant, plus français que toi, il n'y a pas et que moi, donc nous vous défendons, vous. Ce que craignait De Gaulle, c'est que si ces harkis étaient entrés en France, c'était des hommes qui auraient été à la solde de l'OAS, qui plastifiaient à tour de bras à Paris les Nuits Bleues, et ont recommencé la guerre d'Algérie en France. Voilà pourquoi l'armée en Algérie, nous avions l'ordre de ne pas tirer absolument. Il ne fallait tirer que si on nous tirait dessus. Moi, le cas ne s'est pas posé pour moi. Et ça explique aussi cette grosse trahison du 5 juillet 62, trahison estimée par les Pieds Noirs, où le général Katz et d'autres n'interviendront pas, on laissera massacrer ces gens, parce qu'il faut à tout prix, c'est ce que disait De Gaulle, ça coûtera ce que ça coûtera, il faut à tout prix en finir avec ça. Donc voilà des drames humains, et les harkis seront abandonnés sur l'autel du sacrifice. Ceux qui vont rentrer, bah, c'est grâce à certains de leurs officiers de carrière qui ont eu quelques possibilités de le faire, mais enfin c'était extrêmement difficile pour tout le monde.
Même, Jean-Pierre Regeldreau, vous pensez que vous avez abandonné les harkis, sur ordre bien entendu, mais que vous avez abandonné les harkis de votre harka?
C'est un abandon, c'est une trahison qui, dans mon cas, ne s'est pas trop mal passée, parce que j'étais arrivé à établir, notamment avec quelques-uns d'entre eux, un climat de confiance. Alors, si vous voulez, dès l'hiver 62, vers la mi-février, bon, mon capitaine me disait, vous savez, faites très attention parce que le FLN propose aux harkis de, s'il tue un officier et s'il ramène l'arme de l'officier, ils ont le pardon. Alors, l'abandon, oui, c'est de l'abandon, parce que on nous faisait promettre à nous, officiers du contingent, que jamais la France ne les abandonnerait. Et j'ai joué aussi bon, sur cette corde-là. Et que je ne sais pas trop ce qui allait se passer par la suite, parce que moi, très très vite, après leur abandon, j'étais embarqué à Alger, dans une autre guerre, on est parti sur autre chose, et il a fallu tourner une page qui ne sera jamais tournée vraiment. Mais c'est vraiment de l'abandon.
Jean-Pierre Regeldreau, en France, comment a-t-on accueilli les harkis?
Alors, les harkis ont été extrêmement mal accueillis et par tout le monde. D'une façon générale, les métropolitains ne savaient pas plus ce qu'était Harki que ce qu'était un pied noir. On découvrait les métropolitains, mais le statut de ces gens n'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Pour les pieds noirs, on les a considérés comme des rapatriés, même si beaucoup n'avaient jamais mis les pieds en France. Mais pour les Harkis, c'est autre chose. Les Harkis ne peuvent pas être des rapatriés, puisqu'ils ne connaissent pas la patrie. Nous disions au départ la colonisation, mais ça ne veut rien dire du tout. Ils ne connaissaient pas du tout ce mot. Et nous-mêmes, officiers du contingent, nous étions très conditionnés. On ne parlait pas de colonisation. Nous avions maintenu l'ordre dans des départements français, et on en était convaincus. Donc, quand ils vont rentrer, ceux qui vont pouvoir rentrer avec la complicité de leurs officiers souvent, ben, beaucoup, très mal accueillis, iront dans les régions industrielles. Le Nord, Pas-de-Calais, le Nord-Est, la région de Lyon, Grenoble, la côte méditerranéenne, parce que, évidemment, les pieds noirs, eux, vont chercher tout de suite le soleil. Donc l'accueil sera négatif de la part de la population. Ils sont considérés comme des traîtres déjà par tout le monde. Nous, la France et les Trente Glorieuses, on a besoin d'Algériens pour travailler. Donc tous ceux qui avaient été au FLN devenus Algériens auront droit en France à des aides dues à des étrangers. Alors que les Harkis, non, parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'ils sont. Est-ce que c'est des réfugiés? Est-ce que ça n'est pas des rapatriés? On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est des gens qui gênent. Traître pour les Algériens, indésirable pour les Français. L'accueil est extrêmement négatif et beaucoup diront travailler dans ce qu'on appellera d'un mot plein de poésie, les hameaux de forestage, dans lesquels ils vont travailler avec un encadrement militaire. C'est tout ce qu'ils connaissent, on va continuer comme ça. Et l'échec de l'intégration, c'est l'école. Parce que c'est l'intégration qui peut se faire uniquement par l'école. Et là, une dizaine d'années après, en 1975, on considère que 70% de fils de harkis ont moins de 25 ans et ne sont pas pratiquement scolarisés.
Et en Algérie, aujourd'hui, les harkis sont-ils toujours considérés comme des traîtres ?
Oui, alors ça fait partie du discours du président actuel comme de son prédécesseur. Parce que le FLN, qui est toujours à la tête du pays, continue de considérer que ce sont des traîtres. Et quand Bouteflika était venu à Paris il y a une dizaine d'années, il avait dit « Comment voulez-vous que moi j'accepte de serrer la main à Harki ? C'est comme si vous demandiez à un collabo de serrer la main à Jean Moulin. » Bon, alors la comparaison, à mon avis, n'a pas lieu d'être du tout. Pourquoi ? Parce que ces harkis sont des gens qui ont été engagés de gré ou de force et qui ont pris l'uniforme français. Ils ont en grande partie aidé, pour ne pas dire sauvé, des militaires du contingent. Moi, ce que j'ai découvert, c'est pas parce que j'étais officier que j'étais le plus fort. C'est parce que j'étais le plus fort que j'étais officier. Alors plus fort, ça veut dire quoi ? C'est pas forcément dans un autre monde, une autre culture. C'est pas nos référents à nous. Il ne s'agit pas là-bas d'être fort en équation mathématique ou en poésie symboliste. Non, c'est les vraies valeurs, c'est l'arme, c'est des choses comme ça. Et ne sachant pas tirer, étant très mauvais au tir au fusil, c'est pas là qu'il fallait que je m'affirme. C'était donc avec d'autres valeurs que j'essayais d'être humaine, avec un contact humain et très proche. Et c'est avec certains d'entre eux que j'avais créé ces liens, tout de même, je dirais presque des liens affectifs. Ils me protégeaient et je les commandais.
Merci Jean-Pierre Galdrou.
Merci à vous.
Historien et écrivain, je rappelle que vous avez été en contact étroit avec des harkis, puisqu'en 1960 jusqu'en 1962, vous étiez officier du contingent français. Merci.
Merci à vous.
Orient Hebdo, une réalisation Mathias Golshani. Dimanche prochain, épisode 6, Les Pieds Noirs, aussi appelés rapatriés d'Algérie, avec Nicole Guiticelli, elle-même née en Algérie et arrivée en France à 2 ans. Son podcast, Et de nous qui se souviendra, met en lumière la mémoire de cette population particulière qui s'étiole lentement, menacée de disparition. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.